Alors, je suis Chantal Payère et je suis chef d'équipe Entreprises et droits humains, pas pour le prochain.
Chantal, depuis 2007, un des thèmes auxquels s'intéresse Pain pour le prochain est l'industrie électronique. On parle là des téléphones portables, tablettes, ordinateurs, consoles de jeux. Vous vous occupez plus particulièrement des conditions dans lesquelles ces appareils sont fabriqués. Pain pour le prochain et d'autres ONG d'ailleurs s'engagent notamment pour des produits high-tech fabriqués dans la dignité et qui sont de toute atteinte aux droits humains. Donc on va d'abord faire un peu le point de la situation de ce marché qui, il faut le rappeler, vaut plusieurs dizaines de milliards de dollars annuels. Et qui nous concerne tous et toutes dans la mesure où ils touchent à des biens de consommation que nous employons quotidiennement. Ces appareils ont besoin de matières premières telles que coltan, cobalt, étain, cuivre, or. Et plusieurs problèmes se posent déjà dans les pays où ces métaux sont extraits du sol.
Oui, alors toutes ces matières premières, il y en a qui viennent des pays en développement, que ce soit l'Amérique latine, l'Asie ou en Afrique. Mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de discussions autour des minerais qui sont extraits notamment en République démocratique du Congo, qu'on a appelé les minerais du sang, les minerais de la guerre, parce que ce soit le coltan, le tungstène, le cobalt, il y en a beaucoup qui est extrait dans les régions du Kivu, où il y a la guerre civile. C'est une guerre qui a fait, au début des années 2000, entre 4 et 5 millions de morts, hein, le plus grand conflit depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec encore aujourd'hui un nombre de personnes qui ont dû émigrer. Et l'ONU, avec des rapports de très haut niveau, a démontré que l'extraction des minerais dans cette région permettait de faire perpétuer la guerre. Parce qu'en fait, les différents groupes rebelles prenaient possession des mines et puis les vendaient pour financer les conflits. Or, ces minerais qui sont extraits justement sous la menace des armes, ils étaient revendus à différents intermédiaires, mais ils finissaient ensuite dans nos circuits. Et certains de ces intermédiaires, à l'époque de la guerre civile, pas si loin que ça des mines, étaient des acteurs belges. Il y a énormément d'entreprises belges qui étaient présentes au Congo pour des raisons historiques, voire américaines, voire encore d'autres pays. Donc, en fait, on entre ensuite dans toute cette problématique des acheteurs des matières premières, des traders, et ensuite de la transformation de ces matières premières jusqu'à ce qu'elles terminent, entre autres, dans nos téléphones portables ou nos ordinateurs. Et il y a un lien direct parce que c'est vrai que l'électronique, les ordinateurs, les téléphones portables sont un des secteurs industriels qui utilisent le plus de minerais, vu la quantité qu'on en produit aujourd'hui, et surtout de certains minerais sensibles qui sont extraits dans ces régions en guerre, notamment le tungstène, l'or. Et il y a eu aux États-Unis tout un débat et ensuite l'adoption d'une loi qui s'appelle le Dodd-Frank Act, qui a beaucoup sensibilisé les gens à cet enjeu. Et le Dodd-Frank Act, il exige de manière contraignante de tous les importateurs de produits manufacturés aux États-Unis, donc Apple, Samsung ou Hewlett-Packard, donc vraiment ceux qui sont tout à la fin de la chaîne, qui ont leur logo sur les produits, qui fassent une enquête pour savoir d'où viennent les minerais qui sont dans leur appareil. Et c'est très intéressant parce que jusqu'en 2005, ces entreprises, elles disaient « Mais nous, on est tout au bout de la chaîne, on ne peut pas savoir d'où viennent les minerais. » Mais 5 ans plus tard, quand il y a eu les premières discussions politiques sur le Dodd-Frank Act, ils ont commencé à reconnaître qu'ils avaient aussi une responsabilité. Aujourd'hui, c'est une loi. Donc, eux, ils doivent savoir d'où viennent les minerais. Ils doivent pouvoir dire, voilà, on a de l'or, effectivement, qui vient de telle et telle région. Et ils doivent déclarer aux consommateurs dans un rapport si ces minerais alimentent la guerre civile au Congo. Donc, ils sont censés publier et rendre aux autorités américaines un rapport qui est accessible pour les acteurs publics, les ONG, les citoyens, dans lequel ils disent, par exemple, ben oui, nous, on achète de l'or au Kivu, et puis en fait, on finance la guerre civile. Alors évidemment, ils n'aiment pas ça, parce que c'est des marques, ça peut beaucoup nuire à leur réputation.
Excuse-moi, mais ils ne le notent pas.
Alors, ils doivent noter d'où viennent ces minerais. Et s'ils viennent du Congo, ils doivent expliquer qu'est-ce qu'ils font pour éviter d'acheter des minerais qui alimentent le conflit.
Et qu'est-ce qu'ils font?
Alors, la plupart, et c'est ce qui est malheureux avec cette loi, ils ont boycotté les régions à risque. Parce qu'en fait, la stratégie, la meilleure marché pour eux, c'est d'éviter les zones à risque qui ont été définies comme le Congo et puis vraiment un peu cette région des grands lacs d'Afrique. Maintenant, un certain nombre qui sont réellement plus responsables ou qui prennent des risques pour faire vraiment la bonne chose, ils n'ont pas juste essayé de savoir d'où viennent les minerais, mais s'ils venaient du Congo, ils ont essayé de créer des filières d'approvisionnement transparentes. Donc, ils ont essayé de construire des relations avec des creuseurs même dans les régions du Kivu qui sont dangereuses, où il y a des conflits, pour soutenir des creuseurs, acheter des minerais avec des sacs qui ferment, ça s'appelle bagging and tagging, et qui permettent ensuite d'être tracés pour garantir en fait à leurs consommateurs qu'ils prennent des minerais au Congo, oui, mais qu'ils les prennent depuis ces mines qu'ils contrôlent, où ils ont une clarté dans l'approvisionnement, ils savent d'où ça vient. Et ça, c'est des entreprises qui sont réellement en fait progressives et qui évitent pas juste les problèmes, parce qu'il faut savoir qu'au Kivu, les gens, ils ont besoin de vendre ces minerais. Des creuseurs artisanaux, il y a une énorme quantité de la population qui vit de ça, des familles entières, et ils n'ont pas beaucoup d'alternatives, que ce soit au Kivu ou dans d'autres régions d'ailleurs du Congo. Donc il s'agit vraiment d'aider à construire un commerce qui soit décent avec ces creuseurs indépendants artisanaux et pas juste à les boycotter, et donc à créer des filières qu'on puisse connaître et qui soient plus transparentes. Et c'est tout l'enjeu en fait du travail sur les droits humains et de ce qu'on appelle le travail de diligence des entreprises. Tout ce travail, c'est en fait de dire qu'il faut mieux contrôler les chaînes d'approvisionnement pour savoir ce qui se passe, et pas juste pour fuir les problèmes, mais pour construire des filières décentes où ensuite les gens aussi, les creuseurs pauvres du Congo, ils puissent gagner leur vie dans des conditions plus décentes que d'être menacés par une mitraillette, d'avoir des intermédiaires qui leur prennent les trois quarts de leur argent.
Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à dire quelle est la proportion justement de ces creuseurs particuliers par rapport à, j'imagine, des mafias creuseuses ?
Au Kivu, c'est encore difficile. C'est aussi controversé. Donc, je ne pense pas qu'on a des statistiques très fiables. Ce qui est clair, c'est qu'au niveau mondial, là, il y a à peu près 10% des minerais qui sont extraits dans des mines artisanales, alors pas seulement du Kivu et des régions en guerre, mais même ailleurs que dans les régions en guerre, ces mines artisanales posent énormément de problèmes ou de questions au niveau justement du respect des droits humains. Il y a du travail des enfants. Au Pérou, les gens, ils utilisent du mercure, mais à main nue, ils inhalent du mercure à 30 ans, ils sont malades, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas d'avenir, ces gens.
Et la terre aussi devient malade comme eux.
Oui, alors l'environnement, il y a des photos dans certains films, notamment Dirty Gold War de Daniel Schweitzer, où on voit vraiment la région de Madre de Dios. Et c'est une région magnifique, hein, c'est un des poumons forestiers de la planète. Et on voit qu'elle est complètement traversée par des mines, et il y a des pollutions effectivement monumentales. C'est des pollutions, c'est des conditions de travail indécentes, c'est des gens qui meurent à 30 ans d'intoxication avec effectivement des conditions de travail qui pourraient être différentes si on structurait aussi un peu cette exploitation minière.
À Granges-Prémarnant, dans ce village de la Broye vaudoise, l'entreprise Foxconn Technologies est confrontée à une série de suicides de ses employés, 11 pour être exact, en quelques mois.
Oui, le dernier s'est tué mardi en se jetant dans le vide sur le site même du premier fabricant de composants électroniques au monde. Le groupe fournit les grandes multinationales comme Apple, Dell ou Hewlett-Packard. Le phénomène met en lumière les difficiles conditions de travail de millions d'ouvriers en Suisse. Le récit de Malika Nedir.
C'est dans cette usine que les ouvriers de Foxconn assemblent l'iPhone d'Apple. 12 heures par jour, 6 jours sur 7. La plupart vivent dans des dortoirs, loin de leur famille. Pour les syndicats, la série de suicides est due aux pressions subies par les salariés.
Je m'appelle Brenda Bolomé, j'ai 17 ans. Je suis dans une famille de paysans à Bugel-la-Motte. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent et moi j'avais envie de découvrir le monde. Alors je suis venue chercher du travail à l'usine Foxconn, qui est ici à Granges-Marnant. D'abord, il y a eu la journée de recrutement. On était plusieurs centaines de nouveaux. Les instructeurs, ils nous ont parlé de la vie de Steve Jobs et de Bill Gates. Ils nous ont dit qu'on pourrait aussi réaliser nos rêves comme eux si on travaillait bien. Après, ils m'ont filé un numéro, F93-47-140, et on nous a expliqué le règlement et les consignes qu'on doit suivre à l'usine. Pour le travail, on est divisé en deux équipes, une pour le jour, une pour la nuit. Chacun fait 12 heures à la suite, avec les heures sup qui sont en plus, bien sûr, qui ne sont pas comptées. Des fois, on a un seul jour de congé en deux semaines. Et en plus, on est payé comme de la merde, 1200 balles par mois, quoi. Tous les matins, on doit aller à des assemblées obligatoires. Le chef de ligne, il fait l'appel et il fait plein de reproches sur la propreté, ou qu'on parle pendant le travail, la discipline, et tout ce genre de trucs. Ils nous mettent la pression, ils nous disent que c'est les objectifs de production pour la journée. Aussi, ils nous humilient publiquement si on a fait une erreur, ou même des fois si on n'a rien fait du tout. Et on doit se mettre devant tout le monde à faire son autocritique. Après, toute la journée, je dois répéter le même geste. Il y a le tapis roulant qui défile, ça va trop vite. Moi, à mon poste, je dois prendre un circuit imprimé, scanner le logo, mettre le circuit dans un sachet, coller une étiquette dessus et le reposer sur la chaîne. Prendre un circuit imprimé, scanner le logo, mettre le circuit dans un sachet, coller une étiquette dessus et le reposer sur la chaîne. Et ainsi de suite, pendant 12 heures. Et tout ça, ça doit prendre en tout 10 secondes. Donc, on a à chaque fois 2 secondes pour chaque mouvement. Tout est calculé et minuté. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour te mettre la pression, qui te surveille, qui te dit d'aller plus vite. À la longue, ça te donne l'impression de devenir l'esclave de la machine, de la chaîne. On n'a plus l'impression d'être des humains. Celui qui s'est suicidé la semaine passée, je le connaissais pas. Je sais rien de sa vie, mais je peux comprendre pourquoi il a fait ça. C'est dur l'usine, ça te rend à moitié fou, ça te vide la tête. Et quand on travaille pas, bah en plus on reste sur place, dans les dortoirs de la boîte. Et c'est dur de se faire des amis, il y a trop de monde dans les dortoirs, mais personne se connaît vraiment. En plus, les gens changent, avec les horaires qui changent tout le temps et tout.
La direction du groupe minimise l'ampleur du problème. Elle demande à ses employés de s'engager par écrit à ne plus se suicider.
Chantal, une petite réaction à ce reportage Made by Django?
Oui, ben, on voit bien avec ce reportage comment c'est difficile des moments de se décentrer, parce que quand il y a eu ces suicides à Foxconn en Chine, il y a eu quand même beaucoup de couverture médiatique, mais ça faisait des années que des ONG dénonçaient des conditions de travail à Foxconn. Et là, parce qu'il y a eu des morts, il y en a eu plusieurs, il y a eu comme une vague qui ensuite est retombée dans l'oubli. Et puis aujourd'hui, plus personne ne parle tellement de Foxconn, où c'est de nouveau difficile de faire passer le message, parce qu'effectivement, c'est tellement lointain, cette réalité, et que, oui, l'actualité en Suisse, elle passe à autre chose, mais dans les faits, si les gens vont sur place, je pense que si on amène 9 Suisses sur 10 qu'on amène, que ce soit dans une mine à quelque part ou dans une de ces usines, ils seraient très touchés et ils seraient très choqués et ils voudraient vraiment commencer à changer quelque chose. Je pense que les prises de conscience seraient d'un autre ordre. Tandis qu'avec la réalité, justement, aussi toute cette délocalisation, les problèmes sont inévitablement très lointains et puis ça fait que, oui, on a la mémoire courte aussi.
Tu parlais de Foxconn, 40% des matériaux qui composent nos iPhones, ça vient de cette usine, encore aujourd'hui, je pense. Quelle est la situation là-bas?
Alors effectivement, Foxconn, c'est un des plus grands assembleurs. Donc eux, c'est vraiment l'usine finale qui assemble tous les composants d'un téléphone ou d'un ordinateur. Il y a plus de 10 000 composants hein, dans un ordinateur, c'est énorme. Ils travaillent autant pour Apple que pour Hewlett-Packard. Donc c'est grand, c'est des multinationales en fait de l'assemblage et de la fabrication d'objets technologiques qui sont énormes. Donc à première vue, et c'est ça souvent que les gens ont de la peine à comprendre, c'est qu'à première vue, quand on va dans une usine de ce type de Foxconn en Chine, elles sont extrêmement modernes. Il y a même des cinémas, il y a parfois des piscines, ce qui avait fait dire à l'époque à Steve Jobs quand il y avait eu le scandale de Foxconn, mais en fait ce campus il est magnifique. Et par rapport, disons, à des usines textiles, c'est vrai, parce que quand on va dans une usine textile qui peut être petite, sombre, il y a des produits toxiques qu'on voit qui sont utilisés, les gens sont courbés sur leurs machines, les usines électroniques, elles demandent des infrastructures très, très modernes. Pour la plupart, elles sont aussi très récentes. Donc, il y a ce côté clinquant au premier abord. Et on se dit, magnifique, de quoi ils se plaignent. Simplement, après, les conditions de production pour ces ouvrières, elles sont absolument terribles. Parce que d'une part, la plupart sont des travailleuses migrantes qui sont loin de chez elles. Elles ont entre 16 et 25 ans. En gros, à 25 ans, vous êtes trop vieux pour travailler dans une usine électronique. Et elles ont des cadences de travail infernales. Donc, elles travaillent 12 heures par jour, souvent, 7 jours sur 7. Les périodes avant Noël, parce que les marques ne planifient plus la production pour diminuer les coûts. Donc tout à coup, au mois de novembre-décembre, il faut produire deux fois plus pour ces usines comme Foxconn pour satisfaire tous ces clients qui veulent tellement de téléphones avant Noël. Et donc les cadences de travail deviennent de plus en plus rapides, ce qui veut dire que les ouvrières, elles travaillent 12 heures par jour, un travail extrêmement répétitif, hein. Que ce soit qu'on mette 5 lettres sur les touches du clavier, que ce soit qu'on nettoie un écran d'un téléphone portable, c'est un travail extrêmement répétitif, 12 heures par jour. Et dans Foxconn, une des choses qui était beaucoup ressortie des études, c'est que c'était extrêmement autoritaire comme mode de management. Le directeur de Foxconn disait « un ouvrier qui travaille bien est un ouvrier qui a faim ». C'est un entrepreneur taïwanais qui a fait fortune et c'est vraiment une approche hyper militaire. Donc les ouvrières, elles racontaient que si elles n'avaient pas atteint les quotas de production, elles avaient des retraits sur leur salaire à la fin du mois, que si elles devaient aller aux toilettes, on leur interdisait d'aller aux toilettes en dehors des pauses parce que ça ralentissait la production, que si certaines faisaient beaucoup d'erreurs dans la production, par exemple si elles devaient mettre les lettres sur le clavier, au bout d'un moment elles sont fatiguées, elles se trompent dans les lettres, ça ralentit. Le lendemain, elles devaient devant tout le monde dire au fond qu'elles faisaient beaucoup d'erreurs, que c'était honteux leur comportement. Donc il y avait vraiment une culture du travail qui est extrêmement primante pour les ouvrières et c'est vraiment une des raisons qui a poussé autant d'ouvrières à l'époque à se jeter du toit parce que ces ouvrières elles sont un peu prisonnières, elles veulent venir en ville pour gagner de l'argent, pour ramener de l'argent à leur famille, pour ensuite rentrer au village dans le monde rural, donc elles doivent tenir à quelque part et puis elles espéraient gagner beaucoup d'argent mais à un moment donné elles n'osent pas rentrer avant d'avoir gagné de l'argent et en même temps c'est des conditions de travail qui sont très dures à supporter et puis dans les dortoirs elles sont 6 à 8 ouvrières, elles vivent sur le campus, donc elles peuvent très peu changer les idées, mais finalement il y a assez peu de solidarité parce que toutes les ouvrières travaillent tellement, sont tellement fatiguées qu'elles rentrent le soir, elles se couchent, certaines autres se lèvent le matin parce qu'elles ont d'autres horaires, donc c'est vrai que même s'il y a des piscines et puis une salle de cinéma, elles peuvent très peu y aller et il y a très peu qui est fait pour créer un réseau social aussi qui peut aider au fond les gens à être moins malheureux. Et vraiment, ce qui est ressorti à l'époque des suicides, Foxconn avait dit qu'ils avaient mis ensuite en place au début des filets pour rattraper les gens quand ils sautaient des toits. Ensuite, ils ont dit qu'ils ont mis en place une ligne téléphonique d'aide psychologique en disant que la plupart des ouvrières se sont suicidées parce qu'elles avaient des chagrins d'amour. Mais ce qui est ressorti de toutes les enquêtes, c'est que ce n'était pas un problème individuel. C'est vraiment un problème de structure du travail qui conduit les gens à leurs limites.
Est-ce que les gens s'organisent, se syndicalisent par exemple ?
Alors en Chine, les syndicats indépendants sont interdits. À Foxconn, il y avait certaines usines où il y a des syndicats jaunes, donc des syndicats qui sont en quelque sorte en lien avec le management des usines, où ils ne défendent pas vraiment les intérêts des travailleurs. Suite au scandale, il avait été demandé que les ouvriers soient formés au code de conduite, parce que Foxconn a un code de conduite qui dit combien d'heures supplémentaires les ouvrières peuvent travailler ou pas, les mesures de santé au travail, etc. Et il faudrait que les ouvrières soient formées à ces codes de conduite et qu'ils puissent créer des commissions du personnel, si ce n'est pas des syndicats indépendants, ça c'est pas possible en Chine, mais au moins des commissions du personnel, où il y a aussi ces liens de solidarité qui se créent et où ils peuvent discuter avec le management. Mais c'est vrai que ça c'est le point le plus sensible dans toutes ces questions de droit du travail dans les usines électroniques, c'est que des firmes comme Apple ou Samsung, elles-mêmes, elles n'ont jamais eu de syndicat. Donc ils font des codes de conduite et ils disent à leur usine « Oui, il faut que vous travailliez avec les ouvriers, il faut faire des commissions du personnel. » Mais eux-mêmes, ils n'ont absolument pas cette culture. Et au fond, il n'y a personne qui a vraiment envie que les ouvriers s'organisent. Et il faut être honnête. Hein. Donc les seuls syndicats qui existent la plupart du temps dans ces usines, c'est des faux syndicats, surtout en Chine. Il y a d'autres pays où c'est un petit peu différent quand même le contexte, mais...
Tu parlais tout à l'heure des pressions qu'un appel pouvait faire par rapport aux matériaux récoltés dans le Kivu, par exemple. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a les mêmes pressions par rapport aux conditions de travail dans les usines en Chine ?
Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes quand même de consommateurs et ces marques sont très sensibles à leur image, surtout Apple. Apple, c'est un produit d'image. Donc c'est clair qu'avec des campagnes de dénonciation, à un moment donné, ils doivent se positionner, surtout depuis que Steve Jobs est mort. Et depuis 10 ans qu'il y a ces campagnes, la plupart des grandes marques ont adopté des codes de conduite. Donc, c'est des codes qu'elles font signer aux usines de leurs fournisseurs en Chine et ailleurs qui disent, voilà, on s'engage à pas travailler plus que 60 heures supplémentaires par mois pour les ouvriers, les salaires, on respecte les salaires minimums, on informe les ouvriers sur les dangers des substances toxiques qu'ils utilisent, etc., etc. Le problème, c'est que ces marques, souvent, elles repoussent beaucoup de la responsabilité sur les usines avec des ordres très contradictoires. Parce que si on regarde, ben justement, d'un côté, vous aurez le département d'éthique avec des gens parfois bien engagés qui vont essayer de faire en sorte que l'usine puisse mieux respecter les horaires de travail. Et de l'autre côté, vous avez le département d'achat d'appel qui va leur dire, justement, avant Noël, ben maintenant, vous nous produisez 200 fois là, ce que vous, enfin, 100% de plus que ce que vous produisez d'habitude, parce qu'on a une avalanche de commandes pour l'iPhone 6 avant Noël. Et les usines disent toutes, mais on sait très bien que si on veut garder notre client, c'est pas le responsable éthique qu'on doit écouter, qui nous dit, ne faites pas travailler trop vos ouvrières, c'est le responsable des achats. Donc, quelque part, les marques sont très incohérentes dans leur approche et leur politique d'achat interne. Et l'autre chose qui est très incohérente, c'est que si on regarde les systèmes de marge, alors pour un iPhone, c'est très très frappant, parce qu'Apple est la marque qui a les plus grandes marges sur ses produits. Et c'est vraiment assez scandaleux quand on détaille ça, parce que sur un smartphone qui vaut à peu près 560 francs, la moitié, c'est la marge de bénéfice de Apple. Et ensuite, il y a une série d'autres coûts, notamment les coûts de recherche et développement, les composants, les licences, les emballages. Mais les coûts du travail, donc ce que coûtent les ouvrières en Chine, c'est 1% de ces 560 francs. Donc c'est rien par rapport au coût final que paye le consommateur et par rapport à la marge. Donc si on dit sur ces 1% qui sont 6 francs, si on augmente ça de 2 francs et qu'on diminue la marge sur chaque téléphone que Apple se fait, les ouvriers sont payés décemment par rapport, ou un peu plus décemment, et la marge d'Apple reste encore de 49% sur chaque produit. Donc c'est là aussi qu'il y a un déséquilibre énorme dans tout ce système.
Donc passer de 6 francs à 8 francs, est-ce que ça serait le salaire vital pour les ouvrières chinoises ?
Je pense que ça serait même plus que le salaire vital. Disons le salaire minimum ou vital. Mais oui, ça améliorerait spectaculairement leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Parce que les ouvrières travaillent tant, c'est qu'elles ont besoin de gagner plus d'argent et qu'elles ne sont pas assez payées. Et ce qu'on voit vraiment dans tout ce système, c'est que le plus souvent, Apple, ils vont repousser justement la responsabilité sur l'usine en Chine. Mais les usines en Chine, sur chaque téléphone, elles se font des très petites marges. Donc vraiment, pour une usine en Chine, d'économiser sur le salaire des ouvrières, ça leur permet d'économiser beaucoup à la fin, parce qu'ils ont vraiment 2 à 3% de marge, eux, sur un iPhone. Mais Apple, ils ont 50% de marge. Donc c'est clair qu'à quelque part, il faut qu'ils arrêtent de reporter les coûts sur leurs fournisseurs et sur les ouvrières, et qu'ils simplement ils diminuent leur marge de bénéfice, et puis aussi par rapport aux actionnaires. C'est vraiment aussi cette répartition des qui profite en fait dans toutes ces chaînes qui dysfonctionnent.
Ben voilà, on est dans une rubrique qui s'appelle « Le travail se fait ailleurs et les profits reviennent ici ». La Suisse, première place mondiale du négoce des matières premières. Liées à l'industrie électronique, elles sont aussi comprises dans le catalogue des multinationales qui siègent ici.
Oui, bien sûr. Alors le lien, il est multiple. D'une part, effectivement, dans le secteur du trading des matières premières, on retrouve beaucoup, notamment de fonderies d'or, qui elles-mêmes revendent, c'est des intermédiaires en fait, avant les usines en Chine et après les mines au Congo ou ailleurs. Vous avez par exemple l'or, parce qu'il y a de l'or dans nos téléphones et dans nos ordinateurs. Il arrive dans des fonderies en Suisse. Et ces fonderies ont aussi une responsabilité par rapport à ce qui se passe dans les mines au Congo ou ailleurs. Est-ce que les droits humains sont respectés? Est-ce qu'il y a des minerais de la guerre? L'autre lien, c'est bien sûr les consommateurs qui achètent ces produits. Mais c'est aussi toutes les entreprises comme Swisscom ou d'autres entreprises peut-être moins connues dans l'électronique. Évidemment, les grandes marques de téléphones portables, il n'y en a pas des Suisses. Mais Swisscom fait fabriquer des produits aussi en Chine. Logitech fabrique toutes les souris en Chine. Et puis vous avez toute une série d'industries, notamment dans le domaine high-tech de la santé, qui font tous les appareils, scanners, de haut de gamme hein, aussi dans le domaine de la santé, où il y a des acteurs suisses importants qui sont moins connus, ou même dans le domaine de l'horlogerie, Swatch, etc., qui font aussi produire certaines montres, ou les Rolex, des montres de luxe en Asie, et puis qui sont aussi dans travaillent avec ces mêmes usines que les usines électroniques. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au fond, au-delà du fait que Apple est américain, il y a énormément de firmes suisses qui ont les mêmes chaînes d'approvisionnement. Et ces firmes-là, elles doivent beaucoup mieux contrôler cette chaîne d'approvisionnement pour pouvoir garantir aux consommateurs et aux citoyens, parce qu'on n'est pas que des consommateurs, que oui, ces produits qu'on achète ont été produits dignement. Vu qu'aujourd'hui, ils ne sont plus fabriqués en Suisse et que ce n'est plus régi par le droit suisse et que ces entreprises se sont globalisées, il faut en quelque sorte qu'on ait des garanties quand même comme citoyens et comme acheteurs que oui, ils essayent de contrôler ce qui se passe là-bas. Et l'outil pour contrôler ça aujourd'hui, ça s'appelle le devoir de diligence en matière de droits humains. Et il y a une série d'ONG qui ont lancé une initiative populaire qui a récolté maintenant 140 000 signatures. Elles vont être déposées cet automne à la chancellerie fédérale pour demander que ce devoir de diligence devienne obligatoire, donc qu'il soit inscrit dans la loi suisse. Et ce que ça changerait, ce serait très important, c'est-à-dire que les codes de conduite, ce ne serait plus quelque chose à bien plaire que les entreprises font ou pas. Et surtout, la mise en œuvre, elle devrait être beaucoup plus sérieuse. C'est-à-dire que une entreprise, que ce soit Logitech, que ce soit Swisscom, que ce soit une fonderie d'or, elle devrait savoir exactement d'où viennent ces produits. Et puis, elle devrait travailler de manière cohérente avec ses fournisseurs pour voir à ce qu'il n'y ait pas des violations des droits fondamentaux qui soient commises.
Puis alors, ce droit de diligence, comment il sera contrôlé, évalué ?
Il sera contrôlé dans un premier temps par la firme elle-même, mais qui sera plus motivée qu'elle l'est aujourd'hui, parce que la loi prévoit un mécanisme de sanction. Donc du moment déjà que quelque chose est obligatoire par la loi, les entreprises, en principe, elles agissent beaucoup plus, parce que le risque de réputation pour elles est plus grand. C'est une chose de dire on a un code de conduite, puis oh, ça ne se passe pas si bien, finalement les ouvrières se suicident dans nos usines, ou de dire au fond il y a une norme légale qui demande que vous fassiez un devoir de diligence et puis vos ouvrières, elles meurent de leucémie parce qu'elles utilisent des produits toxiques. Il y a quand même quelque chose de beaucoup plus fort, autant au niveau de la loi que de l'opinion publique. Ils ne respectent pas la loi, alors que sinon ils ne respectent pas des standards qui se fixent eux-mêmes. Et dans le projet de l'initiative, il y a un mécanisme de sanction qui est prévu. Alors il est prévu quand une entreprise contrôle une autre, économiquement ou juridiquement. Ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, un Swisscom fait produire à une usine en Chine et qu'ils commandent une majorité, ils achètent une majorité des produits de cette usine, il y a une forme de contrôle économique. Et dans le cas où il y a un contrôle économique, les victimes de violations de droits humains pourraient déposer plainte en Suisse. Mais c'est seulement quand il y a cette relation de contrôle, parce que, voilà, pour des raisons juridiques, c'est ce qui est aujourd'hui possible et envisageable.
Sans devoir de diligence qui n'est pas encore normatif, est-ce qu'aujourd'hui il y a des entreprises suisses qui font pression sur les conditions, les raisons de travail ?
Oui, on a des exemples, plusieurs entreprises qui ont des codes de conduite volontaires. On a des exemples d'entreprises, mais elles ne sont pas très nombreuses, qui ont vraiment déjà essayé de mettre en œuvre ce devoir de diligence. Donc ce qu'elles font, c'est des études d'impact en matière de droits humains. Donc elles vont vraiment dans les usines de leurs filiales ou de leurs fournisseurs, mais aussi dans les communautés pour voir où est-ce qu'elles risquent de violer les droits humains. Si on prend par exemple le domaine de l'or, ça veut dire qu'une fonderie, elle devrait voir, ok, on achète de l'or du Burkina Faso, il y a 14 000 personnes qui vont devoir être déplacées d'un village parce que l'or, il est sous le village. Donc on va vraiment veiller à ce que si ces gens soient déplacés, que leurs conditions de vie et leurs droits, que ce soit l'accès à l'eau, au travail, au développement, ne soient pas péjorés. par ce déplacement, ce qui est très très difficile à atteindre. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des délocalisations de ce type. Puis après, dans les nouveaux villages, les gens, au début, ils ont l'eau. Et puis au bout d'un mois, il n'y a plus d'eau parce qu'en fait, la mine pollue la nappe phréatique. Puis après, la mine, elle dit « Ah, mais ce n'est plus nos affaires. Nous, on vous a déplacé, on vous a fait des nouvelles maisons. Maintenant, vous nous laissez tranquille. » Donc, on voit bien que souvent, les choses ne sont pas faites jusqu'au bout. Mais il y a un certain nombre d'entreprises qui commencent à essayer. Mais on est vraiment loin, loin du compte. Il y a tout ce discours toujours de dire « Mais les entreprises suisses, elles sont mieux que les autres. » Ça, c'est un peu l'image comme ça qui est répandue. Et les Chinois, et les Libanais, les Pakistanais, ils sont toujours pires que les Suisses. Mais ce qu'on voit, si on analyse les entreprises suisses, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit dans le secteur électronique ou ailleurs, il y en a beaucoup qui n'ont encore pas de politique de droits humains. On a fait une étude à Pain pour le prochain qu'on a publiée il y a un mois sur les 200 plus grandes entreprises suisses, cotées en bourse et non cotées en bourse, donc sans coté, sans non coté. Et il y en a 60% qui n'ont aucune politique de droits humains et aucun code de conduite. Donc elles n'ont même pas fait le premier pas de dire au fond, voilà ce qu'on aimerait respecter. Sans parler après de ce qu'elles font concrètement pour que ça se passe mieux. Donc il y a aujourd'hui un énorme besoin d'améliorer les choses, ça c'est clair.
Pour ce qui concerne la spéculation sur ces matières premières, qu'en est-il ?
Bon, là, il y a une initiative qui a échoué récemment. Alors, elle a quand même fait un assez beau score. Mais là, les choses risquent, en tout cas, le court, moyen terme, de ne pas beaucoup évoluer. La spéculation, c'est encore un thème différent des droits du travail ou des droits humains. C'est-à-dire que c'est vrai que l'initiative, elle proposait un ensemble des mécanismes qui sont assez différents des mécanismes qu'on propose en termes de devoir de diligence pour mieux gérer les enjeux de droits humains. C'est un peu deux problématiques qui demandent des solutions différentes.
Une vis tombe par terre. Une vis tombe par terre. Dans cette nuit noire des heures supplémentaires, plongeant vertical, on l'entend à peine atterrir. Personne ne le remarquera, tout comme la dernière fois, une nuit comme celle-ci, quand quelqu'un s'est jeté dans le vide.